Au début de l'année 2024, quelque part dans le centre-est de la France, des membres d'associations ou de collectifs impliqués dans des luttes locales se retrouvent pour la troisième fois. Leur point commun, tous se battent pour l'eau, pour la préserver des logiques d'accaparement, de la pollution, de sa technicisation, de sa privatisation, de son usage à des fins industrielles, pour la remettre au cœur des processus démocratiques et de la vie des territoires dans laquelle elle coule. Ils et elles travaillent à la construction d'un réseau de cellules locales pour l'eau qui a pour nom Hydre. Hydre, comme la créature mythologique à plusieurs têtes, qui repousse en nombre lorsque l'une d'elles est sectionnée. Au cours des échanges, lors des réunions, des ateliers ou des repas, en faisant la cuisine ou en écrivant des idées sur un tableau, émergent des réflexions importantes et diverses sur les mouvements et les politiques de l'écologie. Il y a d'abord des idées magnifiques sur ce que pourraient être des politiques de l'eau et sur nos manières de lutter, typiques des discussions entre militants lorsque, selon l'expression consacrée, on refait le monde. De ces débats émergent ensuite toutes les réflexions sur la difficulté de ce que c'est que de créer un réseau. À quelle échelle ? Nationale, régionale, locale ? Et quelles relations ? Et puis, il y a Hydre, qui prend corps dans l'épaisseur des mots échangés et dans la confection commune des repas.
Le projet, ça c'est l'Aquatech. Bah, par exemple, moi je trouve que la question de la brochure, mais aussi la question de c'est une fille qui avait fait une émission radio avec la clé des ondes, là, sur, où tu avais repris des extraits et tout ça. Et je trouve que tu vois,
en fait. Jean Méco,
ouais. Et même du premier week-end.
Ah, et du premier week-end.
Mais tu vois, parce que je trouve que c'est aussi cette question-là, de là, c'est des outils. Là, il y a des outils de communication, etc. Mais je trouve que ces outils, par exemple, de publicité, enfin pas de publicité, mais de, en tout cas qui s'adressent au public, c'est intéressant. Tu vois, la brochure, c'est intéressant. Et je trouve que c'est aussi libre, ça peut aussi être une plateforme à partir de laquelle on produit des contenus qui se partagent tous.
Et par rapport à la question de ce matin sur réseau de participation, soutien par rapport au réseau francophone des droits de la nature, par exemple, c'est quelque chose qui est envisagé ou pas du tout?
Tout est envisageable en fait.
En fait, il y a une capacité à réagir qui est réelle sur le terrain. Parce qu'en fait, il y a quand même plein de luttes, c'est un fait. Et là, d'ailleurs, les gens qui sont réunis dans ce réseau le montrent, quoi. C'est qu'il y a, plein de luttes qui sont protéiformes, etc. Et qui ne sont pas forcément reliées avec les canaux historiques militants sur ces questions-là, quoi. Et que il y a un manque de lien et que du coup, c'est un symptôme de tout un tas de trucs que je ne vais pas dérouler là, mais voilà, d'une forme de valorisation, de construction, de structuration des réseaux militants qui voilà, on voit ce que c'est FNE aujourd'hui, quoi. FNE, c'est hyper compliqué, quoi. Il y a un peu de tout dans FNE, mais du coup, quand tu es sur le terrain, tu sais jamais à quel sens te vouer. Est-ce que tu peux faire confiance? Moi, il y a des fois où j'ai collaboré avec des FNE locaux, ça se passe très bien, coopéré, et il y a des fois où c'est l'inverse. Et donc, du coup, le problème, c'est que du coup, ça crée quoi? Ça crée les gens, ils ont la méfiance. En fait, moi, je vois une grande méfiance, et c'est pas une méfiance générale, c'est une méfiance locale. En fait, les gens sont méfiants sur tout ce qu'il y a un tampon d'un truc national.
Ces trucs de grosses orgas, c'est un peu inévitable, parce que ces orgas, elles ont leur propre... Enfin, elles sont prises dans leur propre logique de grosses organisations. Elles travaillent pour leur propre, avant tout pour leur propre fonctionnement.
Toutes ces formes d'institutionnalisation ne sont pas les mêmes. Le but, c'est pas de dire que toute institutionnalisation est mauvaise. Je crois pas que. Et d'ailleurs, parce que par ailleurs, on est tous des gens qui ont l'habitude de concrètement coopérer avec les personnes, qu'elles soient qu'elles soient gros orgas.
J'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, enfin, c'est qu'en fait là, c'est 10 ans de lutte de terrain sur les bassines qui font aujourd'hui que c'est devenu un sujet national et que peut-être vous êtes en passe de gagner sur les bassines. Enfin, en tout cas...
Moi, je pense que c'est 50-50, on va dire.
C'est 50-50.
Pas encore gagné.
Ouais, je pense que c'est 50-50, parce qu'il y a une bataille de l'opinion publique qui se gagne, clairement. Mmh. Mais en face, ils accélèrent, quoi. Mmh. Ouais, ils enlèvent les recours juridiques. Enfin, ils veulent enlever les recours juridiques... Ici, les autorisations partout, ils s'en foutent d'avoir des études d'impact. En fait, ils veulent accélérer, mais je pense parce qu'ils sentent que, en fait, la majorité de la population maintenant a compris que c'était aberrant et qu'ils veulent passer en force. Quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, bah oui, il y a un côté où on dit on peut gagner, et puis il y a un autre côté, je dis, attends, c'est quoi cette armée qui nous. Au sens propre comme au sens figuré, c'est quoi ce truc qu'ils sont en train de lever en fait?
Bah, il y a un réarmement hein, quand même.
Oui,
il n'est pas que moral.
Il n'est pas que moral, hein.
Non, ils ont encore fait une commande de je ne sais plus combien de millions, là. Mais c'est vrai qu'on se dit, il y a un truc qu'on se dit, merde, ça se trouve.
C'est pour ça que moi, je suis assez intéressée par les paris politiques que font Terre de Lutte ou les soulèvements. C'est de dire, en fait, dans la séquence politique dans laquelle on est, pour obtenir des victoires, en fait, c'est... Enfin, déjà, la multiplication des luttes locales, ça suffit pas. Il faut à un moment avoir des coalitions de luttes et cibler des filières en particulier et se dire c'est des campagnes d'action, de plaidoyer, de mobilisation avec tous les outils, enfin, une diversité de tactiques et des outils, mais où tu viens taper pendant plusieurs fois au même endroit, au même endroit, au même endroit. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu là le pari qui est fait et qui me semble être un des trucs les plus... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut partir de ça, tu vois. Enfin, il faut partir de ces coalitions de lutte sur des sujets qui sont déjà existants.
Parce que tu peux faire des réseaux, s'ils n'ont pas de d'ossature politique au sens large, noble du mot politique, hein, je ne parle pas politicienne, puis s'ils n'ont pas d'ossature. C'est pour ça que, c'est, que je pense qu'il faut vraiment travailler à ces textes-là et s'atteler à ça. Eh bien, ça peut rester une coalition et un assemblage de luttes hétéroclites sans avoir de.
Mais c'est qu'aujourd'hui, comme tu as une coalition, par exemple, la Déroute des routes, qui vient articuler à la fois des actions de terrain, à la fois des plaidoyers, à la fois des contre-expertises, à la fois des propositions d'organisation.
Et qui porte une analyse fondamentale.
Qui porte une analyse. Et ben, du coup, ça fait urbanique. Que ce sujet, il est en train de monter.
Oui.
Mais c'est que.
Mais c'est parce qu'elle porte une orientation urbanistique, paysagère, de rapport à la nature, tout ça, qu'elle fait ça. Sinon.
Et qu'elle s'appuie quand même. Pourquoi ça marche? Attendez, parce que la Déroute, il y a aussi un truc qu'on oublie dans le logiciel. C'est pas qu'un truc thématique ou de coalition thématique. C'est qu'en fait, quand on a lancé cette coalition, moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait déjà une cinquantaine, soixantaine de luttes contre des projets routiers en France et qu'il n'y avait aucun lien entre elles.
Oui.
Et qu'il y avait un enjeu et que c'était des luttes extraordinaires parce qu'elles fédéraient, elles étaient très locales. Et en même temps, comme c'est des routes, ben elles traversent un bout d'un paysage, donc elles viennent révéler tout un tas d'enjeux, d'articulations logistiques, politiques, urbanistiques, écologiques, ça traverse des corridors, etc., etc. Et en même temps, ça fédérait tout et n'importe qui, parce que ça fédérait beaucoup des riverains, voilà, et en plus, et une route, c'est hyper violent. Enfin, je veux dire, un couloir dans une forêt, enfin, c'est très visible, quoi. Et donc, là, il y avait toute la base, elle était en place, et typiquement, c'est un exemple de la faillite générale des organisations nationales, qui en fait, ont complètement, on ne sait pas pourquoi, alors que le climat, c'est l'urgence, ont complètement laissé de côté, depuis des décennies, ce sujet des routes. C'était pas un sujet. C'était pas un sujet à Greenpeace, c'était pas un sujet à France Nature Environnement, c'était pas un sujet dans quelconque des orgas écologistes en France. Moi, je trouvais, ça faisait 5 ans que je me tapais le crâne contre ce projet, où j'avais l'impression qu'à chaque fois, le seul truc que je pouvais parler, c'était de la forêt, parce qu'on avait des images d'une forêt qui avait été détruite par le projet contre lequel je luttais. Et du coup, là, il y avait déjà un maillage, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, du coup, il y avait déjà des liens. En fait, les gens, évidemment, qui luttaient contre la route à Nîmes, ils étaient liés avec les gens qui étaient avec les gens qui luttaient contre la route à Avignon et avec les gens qui roulaient contre la route à Montpellier, parce qu'en fait, ces projets, ils sont connectés. En fait, c'est des projets de contournement, c'est souvent ça. C'est des projets de contournement qui ont été faits dans les projets urbanistiques des années 60-70. Et donc, pourquoi la Déroute aussi ça a pris? C'est parce que ça a activé en fait des réseaux régionaux qui préexistaient de manière spontanée, j'ai envie de dire, non structurée, juste parce qu'il y avait des collectifs locaux qui avaient juste fait des liens entre eux, ils n'étaient pas vraiment organisés entre eux, hein, mais ils avaient des liens. Et d'un coup, pouf, on a posé, non mais là, en fait, on a un sujet de ouf, il y a plus de 30 milliards d'euros qui sont dépensés d'argent public qui sont dépensés dans des projets routiers, c'est pas un sujet. Et là, ça a pris.
Et parce que les assos environnementales officielles, moi je le vois chez moi, donc pour une route départementale ou pour un projet d'autoroute, étaient ligotées par les financements qu'elles recevaient des conseils départementaux ou des conseils régionaux pour ne pas engager toute leur logistique dans ces batailles-là. Donc ça restait des petits collectifs qui pouvaient avoir des liens entre eux. Et puis il n'y avait pas aussi l'analyse fondamentale qu'a fait la Déroute des routes, de quels étaient les prenant à rebours tout le discours sur le désenclavement des gens, tout le discours sur les contournements. Ben, il fallait quand même s'atteler à aller au fond de cette question-là. Et donc c'est ça que j'appelle de faire de la politique profonde. C'est en allant au fond de cette logique-là du désenclavement qui est quand même un véritable mensonge et en montrant tous les dégâts que causait une route qu'ils ont pu faire une avancée sérieuse.
Mais c'est aussi que du coup les routes, c'est que j'ai l'impression que sur la question de l'eau, c'est beaucoup plus difficile de faire ça.
Sur l'eau en particulier, il y a vraiment cette mise en silo que tu nommes très bien entre cycle court et cycle, entre petit cycle et grand cycle, où effectivement, c'est un truc où du coup tu as un acteur comme SOS Loire-Vivante qui s'intéresse pas du tout aux enjeux d'eau urbaine, et un acteur comme très peu ou à la marge, et un acteur comme la coordination eau qui s'intéresse quand même un peu aux barrages, etc. Mais c'est quand même plutôt à la marge par rapport au. Et c'est dommage parce qu'en réalité, effectivement, t'es obligé de relier tout et de retrouver le cycle, les petits cycles dans le grand cycle, comment tout ça interagit, quoi.
Et justement, moi, il y a un truc, ça me fait bizarre qu'on parle de grand cycle pour parler du cycle dans les bassins versants. Mais pour moi, le grand cycle, il est planétaire. Il est de l'évaporation à l'équateur jusqu'au dépôt sur les calottes polaires, par exemple.
Oui, quand on parle des silotes... Non, mais on pourrait...
En fait, on parle de politique de gestion, en fait.
Non, mais c'est, moi, c'est juste un point de vue de science de la Terre, en fait, de différentes échelles. Quand on dit grand, petit, j'ai l'impression qu'on oublie alors le très grand. Et le très grand, quand on parle de variations de précipitations dans les décennies à venir, bah là, on parle du très grand, on parle de la circulation atmosphérique, on parle pas du cycle dans les bassins versants.
Ouais.
Et y a encore une troisième échelle à considérer.
Oui, qui correspond par exemple au fait que les orgas qui sont sur les engins marins.
Je parle de cycle de l'eau dans le bassin versant,
voilà, c'est ça,
ou de cycle de l'eau planétaire. Et je parle jamais du
tout. Et tu parles pas de petit cycle, c'est pas mon domaine. Pour zéro assainissement, tu dis pas petit cycle.
Ah non, je parle d'activité humaine ou de choses comme ça, mais. D'ailleurs, pour moi, c'est pas c'est un bout du cycle, et du coup, justement, quand je fais les trucs là, je dis bien que maintenant, pour considérer le cycle de l'eau dans le bassin versant, il faut prendre en compte les activités humaines.
Ouais.
Mais en plus, cette appellation petit, grand, ça fait comme si nous, nos réseaux, ils sont à part.
En fait, oui, et par rapport à ce que tu dis, tu peux tout à fait ajouter que les organisations qui sont sur les enjeux, par exemple, marins, sur les mers et les océans, c'est encore quasiment un autre monde par rapport. Enfin, tu vois, il y a très peu de liens entre des gens comme SOS Loire Vivante et des gens comme, je sais pas, Sea Shepherd, etc. Quoi, tu vois, c'est encore d'autres réseaux.
Ouais,
et donc, tout ça, c'est divisé dans le très grand cycle dont tu parles.
Ouais, il y a plein de silos. Dans le cycle du bassin versant, moi, quand je le présente, je parle toujours du continuum terre-mer. Parce que c'est un des gros arguments en face qu'on nous fait. L'eau qui part à la mer, elle est perdue, machin. Ben non, elle n'est pas perdue. Voilà. Et alors qu'après, je distingue. Dans l'influence du réchauffement, des règlements climatiques, la variation des précipitations qui va venir, là on est sur des échelles encore plus, on est sur des échelles planétaires.
Ouais.
Au passage, je signale, les mecs d'Aclimaterra ont commencé à bosser sur les histoires d'échelles sur la réutilisation des eaux usées, indépendamment de la question environnementale absolument effrayante. La question des flux de flotte, c'est-à-dire de l'eau qui va être retirée du cycle, et notamment pour l'instant rejetée dans les rivières, les eaux usées. C'est ils ont commencé à chiffrer les volumes, c'est énorme.
Ouais. Merci.
Et c'est Anaïs qui a surtout. Non, mais justement, il y a plein d'hydrologues qui sont contre le reuse, parce que maintenant, on a besoin
de. Ils disent, mais vos centrales nucléaires, vous allez voir comment ça va chauffer, quoi.
Clairement.
Bah ouais. L'eau que tu retires du circuit.
Oui, parce que quand on dit. Non, mais c'est pas la consommation, c'est le prélèvement. C'est quand même une perturbation importante, quoi.
Moi aussi, pour revenir à ce que tu disais, à la fois, je trouve ça hyper intéressant, et à la fois, ça me fait dire, mais en fait, la question de l'eau, elle touche tellement à. En fait, toute la question de l'organisation de nos territoires, de la production, enfin, en fait, c'est la question agricole, c'est la question industrielle, c'est la question. Mais du coup, je me dis, ce serait quoi avoir des revendications nationales sur la question de l'eau, en fait, c'est presque un espèce de programme politique. T'as tellement d'acteurs qui travaillent sur des sujets qui sont tellement différents que je me dis, essayer d'avoir une, je sais pas quoi,
une revendication commune.
Une revendication commune ou une prétention un peu centralisatrice, ça fait un effet de. Dans quelle mesure tu peux venir proposer un plan pour tous ces acteurs-là qui travaillent sur des choses complètement différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes positionnements politiques.
Qu'on a mené de longue haleine, où on avait essayé d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait poser, à quelles échelles poser les questions, donc la question de l'eau, tout en partant, en s'appuyant sur l'émergence des luttes locales. Et puis, on a vécu l'atelier, l'Assemblée locale de l'eau, au Festival des Résistants, sur le Larzac. Et on a construit la perspective de plusieurs ateliers, dont un qui s'appelait « Lutte contre les baronnies », parce que, je vais revenir sur le constat qu'on a fait sur ces baronnies, et on a ensuite, en octobre, je ne sais plus si c'était octobre ou novembre dernier,
octobre,
le 7 octobre, On a travaillé sur un atelier qu'on a appelé démocratie, justement, et où on essayait de voir quels étaient à la fois les constats qu'on pouvait partager, puis les perspectives. Et l'idée avait émergé l'idée de constituer des assemblées populaires de l'eau par bassin versant. Donc cette idée, elle est croisée aussi par différents collectifs. Il y a par exemple Julien Leguet qui avait beaucoup appuyé pendant l'atelier au Larzac sur cette histoire de lutte contre les baronnies. Tout le monde voit pourquoi, c'est-à-dire qu'on fait tous le constat qu'on a des institutions sur l'eau qui sont moins pires que la moyenne en France, c'est-à-dire qu'on a déjà la logique des bassins versants qui structure nos agences de l'eau, qui structure les commissions locales de l'eau par sous-bassin, voilà. Et donc on a des outils qui pourraient fonctionner de façon démocratique dans le sens de la préservation de la ressource, et on fait le constat, dans le même temps, ces outils sont pervertis par l'existence de baronnies représentées à tous les échelles, dans la plupart du temps, dans une commission locale de l'eau. Il y a bien sûr la FNSEA et la FEDE, comme on dit, qui est représentée ès-qualité, mais dans nos campagnes, il y a deux ou trois élus qui sont aussi dépendants de la FEDE, et puis il y a des associations dont certaines sont des associations un peu plan-plan et qui se laissent berner par la FEDE. Enfin bref, à l'arrivée...
Des industriels.
Il y a des industriels aussi. Alors ça dépend, moi je travaille souvent à la campagne, mais il y a aussi des industriels. Et donc on se retrouve dans une situation où il y a un rapt, une confiscation de la démocratie. Donc ça fait partie de nos constats. Et c'est de cette situation qui est pas univoque, hein, qui est contradictoire, dont on voudrait se saisir. Il ne s'agit pas de renverser donc complètement la table. Il ne s'agit pas non plus de se plier aux arcanes existantes. Comment investir les institutions existantes? Comment faire fonctionner la démocratie et réveiller aussi les associations aux côtés desquelles nous luttons? Je vois sur les questions du nucléaire, souvent on a des associations endormies, on pourrait dire, pour être gentil. Et on a fait le constat donc qu'il manquait un rouage pour réveiller, stimuler une véritable démocratie sur toutes ces questions. Et donc, je lis le texte qu'on avait écrit, cette interface ne manque pas seulement entre les deux mondes, mais elle manque aussi de manière générale entre les mondes de toutes celles et tous ceux, journalistes, scientifiques, artistes, pêcheurs, pêcheuses, travailleurs, travailleuses, qui s'intéressent à l'eau autour de chez eux. On a parlé de la nécessité d'écrire une charte de l'eau.
C'est au Larzac.
Oui, alors c'est vrai qu'on a évoqué la question dès le Larzac, voilà. Une charte qui ne soit pas un texte fini dans lequel on demande à tout le monde de s'enrégimenter, mais un préambule éventuel à des tas de chartes qu'on pourrait susciter avec notre texte, un texte qui porte sur des enjeux fondamentaux. Donc c'est sur ces questions qu'on a travaillé. Alors, ce que je suis en train de vous résumer rapidement, on vous l'a écrit et on vous l'a présenté dans une visio. C'est le texte qui s'appelle donc Présentation du projet de réseau des ALE, les assemblées locales de l'eau. On précise tout de suite que ce titre, les assemblées locales de l'eau, on n'est pas sûr de le garder. Parce qu'il est c'est peut-être pas le label le plus clair, donc il n'y a rien de figé dans ce qu'on propose là. C'est l'idée de la démarche, donc un préambule de charte, on pourrait dire, qu'on pourrait proposer à tous les gens qui souhaiteraient travailler ou coordonner des luttes sur l'eau, sortir des silos comme on en a parlé ce midi et travailler ensemble sur la question. Et à cela s'ajoute donc la construction du réseau qu'on a évoqué ce matin et un troisième volet dans cette perspective qui sont les actions de formation.
Clairement, les commissions locales de l'eau, les SAGE et tout ce qui est de l'ordre de l'agence de l'eau en général et toutes les échelles qu'il y a, qui sont représentées au sein du comité de bassin et des sous-bassins liés, n'ont aucun pouvoir. En fait, le principe, je crois, de ce truc-là, c'est de produire de la connaissance sur les milieux
C'est-à-dire que t'as, donc c'est l'eau paye, le principe c'est l'eau paye l'eau, donc pour, si on revient à la base du truc, c'est il y a une partie de la facture d'eau qui est prélevée sur les agences de l'eau. Les agences de l'eau, du coup, elles ont un budget, et leur objet dans ce budget, c'est de redistribuer cette taxe aux sous-bassins et aux différents syndicats et autres commissions locales de l'eau, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de commission locale de l'eau, il y a que des syndicats de rivières, des fois il n'y a même pas de syndicats de rivières. Tout est un peu, il y a des situations, voilà, il n'y a pas d'homogénéité par rapport à ça non plus. C'est l'idée d'une fédération, c'est-à-dire que c'est par la base, c'est-à-dire que le comité de bassin, lui, il n'a pas de pouvoir sur l'ensemble des gens qui siègent au comité de bassin. Il n'est là que pour faire du lien à la bonne volonté des collectivités territoriales, qui s'y inscrivent ou pas complètement, etc. Et donc, l'agence de l'eau et les sous-agences de l'eau, que sont les commissions locales de l'eau, etc., pour les sous-bassins, ont des moyens pour faire financer des études de comment va la qualité de l'eau, de ces histoires-là, enfin, voilà, des études scientifiques, quoi, qui permettent d'orienter des politiques d'amélioration de la qualité de l'eau. Ensuite, les décisions, elles sont prises par les collectivités qui peuvent obtenir l'appui et le soutien de l'agence de l'eau pour ces politiques-là, en fonction de schémas d'aménagement et de schémas directeurs d'aménagement qui permettent de créer quand même un cadre et de donner des directions et des orientations pour ces soutiens aux politiques de l'eau, quoi, en gros.
Bah après, c'est aussi ce que je projette dans l'expérience avec les bassines, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, un des premiers trucs que je vois, c'est les élus. Enfin, la question fondamentale, je trouve que ça pose, c'est déjà, c'est quoi la démocratie ? Parce que moi, est-ce que vraiment la démocratie, c'est mettre tout le monde autour d'une table à égalité, alors qu'il y a des enjeux de pouvoir, alors qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'éloquence, alors que la plupart de ces gens, je pense, ont un manque cruel de formation sur comment ça marche le système naturel. Voilà. Ah ouais, quand même, en fait. Et je trouve que la place la place des élus, elle est très importante dans ces clés. Alors que souvent, ils ont des conflits d'intérêts. Je veux dire, nous, chez nous, ouais, il y en a la moitié qui sont irrigants. Hein. Nous, on a même une élue qui s'est signée son autorisation de bassine. Donc, tranquille. Et puis, quand ils se présentent comme élus. Ils sont maires, quoi. Bah ouais, mais en fait, quand t'es maire d'un village, en général, t'as une concession à côté. Je pense que ce serait bien de les resituer dans un contexte globalement, et dans les clés, ça pose vraiment problème. Sur ce côté manque de formation, enfin, nous, on a le cas, l'étude HMUC, ils nous ont dit, de toute façon, elle est trop compliquée, quoi. Donc on ne peut pas prendre de décision. Ah, je suis désolée, c'est compliqué comme problème. Quoi. Donc, il y a un moment, et on voit bien, enfin, les maires, surtout dans les petites communes, ils doivent répondre à tellement de problèmes différents, ils ne peuvent pas être formés sur tous les problèmes. Donc moi, je trouve que ça, c'est un gros souci. Et du coup, normalement, les agences de l'eau, elles devraient effectivement produire des savoirs, mais quand on leur demande quelle étude a été faite sur quel bassin, franchement, c'est très dur. C'est-à-dire, les services des agences de l'eau, des clés ou tout ça, ne sont incapables de retrouver leurs propres études. Donc, des fois, ils peuvent redemander des études sur des études qui ont déjà été faites, ça ne va pas les choquer. Et puis, je trouve qu'il y a un autre truc qui me fait bizarre, c'est ces histoires de jargon. Enfin, j'ai laissé un autre point, parce qu'il y avait les propriétaires de rivières, c'est bizarre aussi. Et ces histoires de jargon entre liste 1, liste 2, etc., j'ai mis un moment à comprendre. Et ça va avec le manque de formation, mais du coup, s'il n'y a pas quelqu'un qui débarque dans ces institutions, si tu n'as pas déjà les codes, et si. C'est très dur de réussir à prendre une place. Du côté démocratique.
Et puis, ouais, c'est juste pour ajouter aussi, ils sont aussi dans une dynamique là, de valider un schéma d'aménagement, un SAGE. Du coup, ils arrivent déjà avec une question et un schéma qui est déjà fait, même avec une liste de rivières et tout ça. Et leur objectif, c'est donc bien de valider ce schéma avec quelques modifications possibles. Du coup, ça change déjà tout de suite la dynamique des discussions. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas autour de la table pour faire émerger ensemble un problème et s'accorder sur « oui, en effet, c'est ça le problème qui nous rejoint, etc. » Mais là, on vient avec un schéma et on se dit. En plus, on dit qu'il faut que ce soit fait avant septembre et il faut accélérer les discussions parce que voilà. Il y a aussi ce verrou-là qui.
Non, mais en fait, c'est, je pense, sur la, l'objet de cette discussion là qu'on a maintenant, la question que je me pose, c'est effectivement ce, ce truc-là, c'est est-ce que c'est l'objectif est, de trouver une manière de re-rentrer dans une institution ou de, et de trouver la manière de mettre en lumière certains leviers politiques qui peuvent continuer à exister dedans, ou est-ce que dans cet imaginaire de assemblée locale de l'eau, nous interrogeons la question de est-ce que c'est un truc alternatif ou quoi, est-ce que l'objectif c'est d'arriver à dire voilà, bon ben en fait il y a toutes ces instances mais nous on ne s'y retrouve pas et du coup on fait une instance parallèle qui n'a pas spécialement un pouvoir décisionnaire et qui du coup ne rentre pas là-dedans vu, mais qui revendiquerait la possibilité de donner son avis et que son avis soit entendu, etc. Enfin c'est formalisé, enfin sur ce, cet objet-là de et sinon je trouve qu'il y a d'autres, il y a des exemples qui moi me paraissent quand même pas complètement inintéressants, notamment à Marseille il y a un élu ELV qui s'appelle Sébastien Barle qui est adjoint à la transition écologique à la mairie de Marseille et lui il a créé ce qu'il appelle les assemblées du futur et du coup c'est un dispositif où il y a une série d'habitants, habitantes qui sont tirés au sort avec toute une réflexion sur le tirage au sort, etc. Et les gens se retrouvent rémunérés pour travailler sur, sur différents sujets. Et il y a un groupe qui s'est constitué comme une assemblée du futur spécifiquement sur les questions de l'eau et où du coup là ça rejoint des modalités un peu type convention citoyenne où ils ont différentes ils ont l'occasion de auditionner différentes personnes pour leur expliciter différentes problématiques, etc. Et du coup voilà, ça c'est un autre exemple d'objet, je pense que tu vas dans des exemples de gens qui essayent de faire exister d'autres espaces de décision de l'eau, ben, alors à voir à quel point ça fonctionne, mais il y a tout le dispositif de l'appel du Rhône là, que tout le monde connaît ici autour de l'imaginaire d'une convention citoyenne autour du Rhône. Et voilà, et je trouve que, enfin voilà, c'est, je me dis qu'est-ce, comment ça, ça interagit avec ces trucs-là. Et puis après, juste sur une petite expérience personnelle où nous on s'est trouvés de temps en temps à participer à des ateliers participatifs pour les sages, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi à chaque fois les. Il y a quand même toujours cette espèce de truc où les ateliers participatifs, tu as vraiment l'impression que tous les gens qui organisent ça se disent ils n'y connaissent rien, ça ne les intéresse pas. Il y a toujours cette espèce de truc où du coup il faut faire des choses ludiques. Où tu te retrouves à faire des espèces de jeux avec des petits chapeaux sur la tête. Enfin, franchement, je trouve qu'il y a quand même une espèce d'imaginaire aussi. Dans beaucoup d'endroits, enfin, je trouve qu'entre ces espaces-là et les espaces assemblés du futur, on voit qu'en fonction des espaces, l'imaginaire de qu'est-ce que ça veut dire ouvrir la démocratie, il y en a, c'est vraiment plus finalement, c'est à travers la participation, on en profite pour faire un peu de la sensibilisation des masses, et il y en a où c'est vraiment essayer de se former et développer des espaces, quoi.
Oui, pour aller dans ton sens aussi. Ben, je trouve que ces assemblées-là, elles peuvent. Enfin, en effet, il y a déjà des choses qui existent, etc. Donc, il y a la question de comment on articule enfin, ce réseau des assemblées, ou ce que peut faire l'île, ou les outils qu'on fournit à des gens qui peuvent être déjà engagés dans des questions comme ça sur des territoires. Mais aussi, enfin, si y a l'idée de faire émerger aussi des assemblées dans des territoires où il n'y a pas ces envies-là. J'ai l'impression qu'il y a un enjeu de aussi une assemblée se constitue pour résoudre un problème et donc de visibiliser ou de cartographier où il y a quelque chose de l'ordre de quels sont les problèmes dans quel territoire qui pourraient réunir les gens et donner la motivation à des gens de créer de telles assemblées parce que souvent les initiatives même sur les droits de la nature partent de gens qui sont concernés vraiment par des aménagements qui problématiques ou voilà.
Mais après justement c'est pour ça par exemple que dans le CLIN, en tout cas, parce qu'il y avait deux exemples différents. C'est pour ça qu'on ne part pas direct, en fait. C'est pour ça que pour l'instant, on en est à se concerter avec la FHLF dans le PTGE citoyen. Elle ne viendra pas dans le PTGE alternatif, clairement. Et comment on ne s'oppose pas, mais comment on se renforce dans nos approches différentes, hein. C'est vraiment important.
La spécificité de ce qu'on propose, c'est que justement, il n'y a pas de solution générale parce que chaque territoire a ses enjeux, a ses spécificités et que selon là où tu vas être, si on prend par exemple ne serait-ce que les deux exemples que tu as donnés, qui sont pourtant quasiment sur le même bassin versant, hein, Klein et Montagne-Limousine, en fait, les rapports de force locaux sont absolument pas les mêmes et vous allez certainement être dans une stratégie de confrontation là où le syndicat, il est quasiment là en train de remplacer les institutions existantes. En tout cas, le syndicat de la Montagne-Limousine est devenu plus important que le parc naturel régional du plateau de Mulhaches à cet endroit-là, quoi. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes histoires. L'enjeu qu'il y a, c'est là où l'enjeu de la formation, il est hyper important, et de créer un cursus de formation. Où en gros, l'objet, ça serait d'amener des gens, en fait, enfin, de donner aux gens le bagage nécessaire pour pouvoir lire là où ils sont, là où ils habitent, les enjeux, comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir justement une connaissance et un partage de connaissances des multiples situations qu'il y a pour pouvoir mieux lire la tienne, pour pouvoir à la fois avoir des exemples de trucs de proposition, mais aussi de lutte, etc., etc. Et c'est là où je pense que, en fait, de ce cursus de formation naîtra une vision, si on le construit, naîtra une vision de ce que ça pourrait être ce réseau d'assemblée de l'eau, même si certainement que le nom il est pas bon et qu'on l'a mis comme ça de manière très générique, parce que, en fait, dans ce cursus de formation, il faudra justement amener le fait que il faut que les gens soient capables d'inventer la forme qui correspond à là où elles sont. Et pour ça, la charte peut aider à déterminer un peu un esprit quand même général. Mais voilà, en gros, je vais juste récapituler ce truc-là parce que c'est articulé, quoi, et qu'on a encore du travail à faire si on veut arriver à une proposition conséquente, quoi. C'est, ça, c'est sûr.
Bah, en fait, je pense que la question que Lisa a posée, c'est la bonne question, c'est quid de l'hydre là-dedans, hein.
C'est ça.
Et moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai du mal avec les propositions qui consistent à dire que les gens fassent des trucs. Enfin, je trouve que c'est pas une proposition. Enfin, c'est les gens, ils font des trucs déjà, et s'ils font pas notre idée, c'est qu'ils ont d'autres idées et qu'ils sont mieux. Enfin, vous voyez, le truc invocatoire, quoi, de faire un appel aux gens, ça ne marche pas. Les gens, ils vont pas répondre à un appel d'un groupe qui sait même pas ce que c'est et qui leur dit faites des commissions, faites des assemblées locales.
Absolument.
Moi, je ne crois pas trop là-dedans. Je vois bien qu'il y a des gens, tu vois, c'est un peu des gens, c'est des lanceurs d'idées, tu vois, ils disent « Allez, on fait ça !» Par exemple, les droits de la nature, et puis ça prend. Mais vous voyez, c'est quand même assez rare que ça prenne, et souvent, on met beaucoup d'énergie à faire des appels invocatoires, et ça prend pas. Et
souvent.
Oui, souvent.
Les soulèvements, ça commençait par un appel.
Oui, non, c'était par un appel. Ah, attention, c'est très différent, c'était pas un appel. C'était des gens qui ont dit « Nous, on le fait !» C'était pas...
C'est présenté comme un appel.
Oui, mais c'était pas... Les soulèvements, c'est des gens qui se sont retrouvés à 150 personnes et qui ont dit « Maintenant, on va faire ça !» C'était pas un appel à lutter sur les territoires. C'est juste, moi, c'est juste, ça m'interroge sur la limite de cette. Mais je pense qu'on peut carrément trouver comment ne pas faire ça. Hein.
J'ai passé du temps en Occitanie, dans le sud, principalement dans les montagnes, où le conflit entre écologie paysanne pastorale et une certaine écologie naturaliste est exacerbé. C'est évident sur ces territoires que les paysans voient un certain environnementalisme gestionnaire qui accompagne la déprise agricole comme une menace existentielle. Pour les ZNT, donc les zones de non-traitement, il y a tout un passage dans le manifeste, bon voilà. Sur la déprise principalement, le retour des prédateurs par rapport auxquels les bergers ont l'impression d'être méprisés par les naturalistes qui ne comprennent pas à quel point ça durcit les conditions de travail et l'enfrichement des alpages. Les ZNT, vous connaissiez ça ?
Non.
C'est le débat qu'a essayé de lancer Terrestre depuis un petit moment, les reprises de terre et tout ça, c'était ça le sujet.
Oui.
Mais ça n'a pas produit... Ben, typiquement, en fait, là, on a quand même une veine de gens qui ont voulu parler d'un... De pas faire une écologie hors sol et puis de pas reproduire les premiers schémas du naturalisme version 19e et 20e siècle, etc.
Ouais.
Mais en fait, ça a pas produit énormément d'effet dans le réel, quoi. C'est ça le problème, c'est que
ouais.
L'image des écolos elle est pas du tout changée et il est vrai que les institutions écologistes elles correspondent pas mal aux clichés que les agris et les gens de droite et tout ça.
Bah, ça dépend lesquels, parce que tu vois, après, je sais plus qui disait sur le truc des prix planchers pour les prix agricoles, c'est une revendication qui est portée par la France insoumise depuis des années, quoi. Mm. Tu vois ?
Ouais.
Ouais. Mais oui, du coup, mais... c'est quand même aussi une des revendications du mouvement.
Ah oui, mais là, je parlais pas.
La gauche sociale et écolo.
Ouais, mais oui. La France insoumise, c'est oui. Pas la gauche écolo à la base. La France insoumise, elle s'est un petit peu verdie, un petit peu, mais à la base, elle a une ligne qui là-dessus est plus, quand même plus percutante que les écolos. Il n'y a pas à chier.
Ouais,
moi, les dernières présidentielles, c'était quand même leur programme qui était le plus cohérent en termes d'écologie, plus cohérent que celui des Verts, quoi.
Ah bah, c'est sûr. Mais parce qu'ils ont fait un gros effort là-dessus.
Mm. Et après, le gars, il faisait toute une analyse sur la question des normes, parce qu'à la fin de la tribune, ils disent « Oui, si on met la question des normes sous le tapis, en fait, ça va exploser plus tard. Enfin, il faut maintenir le truc des normes environnementales. » Là, il disait, en fait, les normes environnementales, c'est aussi des normes sanitaires. Enfin, c'est toujours c'est ce mélange entre sanitaire et environnemental. Et il dit, en fait, à plein d'endroits aussi, ça force à industrialiser, mettre aux normes des petites fermes avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens de les mettre aux normes. Et qu'à plein d'endroits, en fait, des normes... tu vois, qui ne sont pas adaptés au terrain, c'est aussi forcer des petites exploitations à se normaliser et à...
Bah, c'est exactement ce qui s'est passé sur mon terrain en Corse, là, chez la bergère, chez laquelle je vais.
Ah ouais ?
Elle a arrêté, mais dans les années 90, parce qu'on avait trop marre des normes européennes.
Ah ouais.
Et que c'était, ça la faisait changer, genre, tous les 5 ans d'infrastructure complètement.
Mm.
Alors qu'elle, c'est vraiment un petit troupeau avec petite production de fromage, quoi.
C'était des normes sanitaires, plutôt ?
Ouais.
Ouais.
Ben, du coup, je sais pas, normes sanitaires ou environnementales, et évidemment, je pense un peu les deux.
Ouais. Et du coup, ouais. Elle n'arrivait pas à...
Elle est partie. Sa sœur, elle a continué. Mais elle s'est dit, ben, j'en ai trop. Enfin, c'est insupportable.
C'est un truc de l'Ouest.
Moi, j'ai envie qu'on soumette à la discussion ce soir en Assemblée Générale le fait qu'on prenne un temps pour aller voir les blocages à côté. Il y en a.
On enlève le téléphone et on parle d'une action à faire lundi matin en groupe, là.
Ah non. Moi, je... Non. Moi, il faut que je rentre, hein.
Ouais.
Puisque est-ce qu'une action en groupe
Bah en petit groupe quoi.
Mais quoi une action
j'en sais rien.
On est débordé par le niveau des actions. Enfin,
là on n'est pas assez déter.
Non mais c'est là qu'on a un week-end pour trouver la petite action. C'est le petit truc qui pourrait faire tout chambouler quoi. Tu vois.
Bien sûr, je pense que c'est pile la mission qu'il faut qu'on fasse.
Non, mais il faut savoir être décisif dans les moments de trouble.
Ah, voilà, j'ai une copine qui a fait une pancarte, c'était écrit « Vive la lutte des classes des paysans ». Et elle l'a posée dans une manif à Rennes au milieu des trucs de la coordination rurale et ça a fait la une du monde.
Ah, ça, c'est un geste voilà, ce genre
et
de geste.
Et à sa pancarte, comme ça, « Vive la lutte de classe des paysans ».
Bah ouais, voilà, très bien.
Ouais.
C'est exactement le genre de move qu'il faut faire.
Moi, je suis chaud aussi d'aller enlever le béton d'un parking.
Mais peut-être qu'on peut discuter avec les agris de la ferme. Hein.
Non, mais franchement, c'est tellement... T'as vu ce truc-là, lui ?
De quoi ?
Et des tracteurs qui ont retourné le parking d'un Leclerc. Ils sont avec les tracteurs, ils ont... Mais c'est même des tractopelles à ce stade, je sais pas. Ils ont retourné le béton. Il n'y a plus de parking.
C'est tellement bien.
Et ils ont semé le parking.
Et ils ont semé dessus.
Mais c'est eux, les écolos.
Non, mais franchement,
fou,
on est...
Un mec de fou.
Il y a plein d'écolos, Camille Etienne qui était là, oui, deux poids, deux mesures, on réprime les écolos, on réprime pas les agris, sous-entendu, il faudrait réprimer les agris.
Ouais, c'est ça qui est
un peu énervant.
Ouais.
Tu sais, là, c'est un peu le moment pour dire dans les médias, en fait, vous voyez bien que la discussion sur les modes d'action, c'est
bien
arnaque,
sûr, mais malheureusement, les gens qui vont dans les médias pour nous, ils sont pas aussi percutants que ça.
Non.
Ça fait partie des problèmes.
Ceux qui sont percutants, on leur tend pas le micro aussi.
C'est pas ceux qui vont dans les médias.
Et puis on nous laisse pas le micro très longtemps non plus. Hein. Enfin...
Madame Morwen. Oui, merci Madame Morwen.
Putain, là, on a les médias qui, parce qu'on fait des communications et tout. Et... Bah, les deux porte-parole, on n'est pas à dispo. Et le troisième, le troisième, il a peur de ce qu'il peut dire. Alors.
Ouais.
Ok, donc là on a.
Parce qu'il y a des journalistes qui vous ont demandé votre position.
Ouais, quoi. Parce que du coup on a communiqué dessus quoi.
Nous aussi, hier soir, on a fini à 11h avec Henri sur un communiqué de presse.
Bah ouais.
D'ailleurs, pesticides. On va pas les laisser raconter que c'est les diminutions de pesticides qui les étouffent.
Ouais.
Ils diminuent pas les pesticides, donc ça n'a rien à voir avec les pesticides.
Vous voyez pas, moi, sur un plateau, cette vidéo où, je sais pas, il y a des gens qui parlent à un agri, il est pas du tout à la conf, je crois, il est plutôt à la FNSEA. Et la journaliste, Apolline de Malherbe, elle lui parle des écolos et tout ça, il fait, vous voyez cette vidéo ? Il fait, quoi les écolos ? Mais quoi les écolos ? Mais vous croyez que, il dit quoi ? Vous croyez que c'est pas les écolos le problème ? Mais enfin, mais il la défonce comme ça. Mais moi, je vends pas mes produits à des écolos, moi, je vends mes produits à l'agro-industrie.
C'est un mec de la FNSEA qui dit ça. Vous avez pas vu cette semaine ça
tombe. Non, je l'ai pas vu. C'est déjà cette semaine.
Je vais vous l'envoyer hier.
Ah putain, c'est bien.
God, la FNSEA. Ouais, il y a quoi les écolos
Dans les revendications, tu vois, systématiquement, c'est le libre-échange, les distributeurs, les coopératives.
Oui, mais nous, on arrive après, quoi. Ouais, mais Apolline de Balerbe et les journalistes mettent en avant.
Les journalistes sont horribles, portables. C'est pas le problème.
France 3, Apolline de Balerbe, que je parle de ça. Bon, en plus, je vais pas le
de
temps.
Quoi des normes environnementales de la
ouais 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 et puis voilà puisqu'ils font le foin sur les pesticides à mort ouais. C'est pas mais c'est la première chose qu'il faut dire c'est que c'est pas la diminution des pesticides la cause de leur malheur puisque ils ne font qu'augmenter donc oui. Faut aller chercher ailleurs
oui.
Enfin, sauf
les prix qui
ont bien parlé les pesticides, Apolline de Balerbe,
les écolos.
Ouais.
Ils ont obtenu la réduction.
Les écolos ne sont pas au front. Nous ne sommes pas au front. C'est pas nous qui faisons la politique agricole depuis 40 ans, tu vois. Et Apolline de Balerbe a fait.
Léna a été chez Apolline de Balerbe.
Elle est allée parler chez Apolline de Balerbe. Mais elle a bien, je trouve qu'elle a bien parlé. Mais surtout qu'elle est en train de s'installer. Elle est en train de devenir. Elle s'installe pour être faire des grandes cultures, donc du coup elle joue sur le truc.
Bah oui.
Ah ouais. Aussi, ouais, elle me dit moi aussi je suis paysanne, donc ça pose un truc quoi.
Lundi matin, ça devrait être bien. C'est les départ.
Des hydro furieux.
Nous aussi on est furieux.
On est furieux.
On est furieux.
On est vraiment très furieux. Aïe, ouais. On n'est pas sorti de la berge.
Ah non.
Ça, c'est sûr que.
Quelle époque. Vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois, on est toujours un train en retard sur.
Ouais.
On se prend un 7 octobre et après, tu sais, on passe 3 mois à essayer de comprendre les implications de ça, à se positionner bien, puis boum, bam.
Moi, j'ai l'impression de passer ma vie à dire quelle époque.
Ouais.
Quelle époque.
Non, mais là, il y a une sorte d'enchaînement des séquences, tu vois, des espèces de séquences politiques.
Ouais, un peu un truc où on est.
Ouais.
Complètement. C'est une façon d'état d'inspiration
permanente. Ouais. C'est la stratégie du choc, ouais.
La stratégie du choc, exactement.
Bon, alors on vous dit au revoir. Allez, on se la dit à tout le monde.
Bon, je vous dis à bientôt.
Je vous dis à bah oui, hein. Bonjour si tu les revois à Catherine et Pascal. Non,
bah oui,
voilà,
bon,
si tu les vois. Voilà, hein. Ça va être la prochaine. Salut, alors.
Salut, à bientôt, Françoise.